Merci de nous rejoindre à 13h10, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. Raphaël qui cet après-midi nous emmènera au salon de la plongée. Il est midi et demi, l'heure de votre journal de la mi-journée avec vous Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce jeudi 6 août.
Je viens d'abord, je dirais de manière quasi immédiate, pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais.
Emmanuel Macron, premier chef d'État à venir sur place au Liban pour exprimer sa solidarité envers le pays meurtri par les explosions du port de Beyrouth. Deux jours après le désastre qui a fait 137 morts et 5000 blessés, le président affirme vouloir organiser l'aide internationale pour le pays. Le Liban, où la colère monte, la population réclame des comptes.
Celui qui sera coupable ou responsable de ce crime de négligence, crime affreux de négligence, sera puni par un comité de juges.
Charbel Webe, le ministre des Affaires étrangères libanais, assure sur Europe 1 dans une interview exclusive que les responsables devront répondre de leurs actes. Le drame cette nuit dans une rue du Mans, un policier tué après avoir été renversé par un chauffard alcoolisé. Le fonctionnaire était âgé de 43 ans. Gérald Darmanin s'est rendu sur place. Dans ce journal également, la canicule qui arrive et la sécheresse qui désespère le monde agricole.
Il a fallu qu'il pleuve au moins il y a 3 semaines déjà. C'est comme celui qui est à la banque et qui a un compte déficitaire. Tous les jours, il prend les agios. Nous, c'est pareil. Tous les jours, on perd du rendement, on perd du rendement, on perd du rendement. Et à la fin, il n'y a plus rien.
Un reportage à suivre de Benjamin Péter en Haute-Garonne, l'un des 73 départements qui ont appliqué des mesures de restriction. À suivre, les Français qui ne sont pas les tirs au flanc que vous croyez. Une étude révèle qu'un jour de congé maladie sur 4 se passe en fait au travail. Nous vous parlerons également de ce tableau de maître français volé par les nazis pendant l'occupation et qui va retrouver la France. Et puis, un joueur de plus à l'infirmerie du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, pourrait bien manquer le rendez-vous de Ligue des Champions la semaine prochaine. Enfin, la météo, quelle est la tendance du jour, Marlène Duret?
Il fait beau partout aujourd'hui, oui. Lionel. Le fond de l'air se réchauffe évidemment. L'épisode caniculaire dont on vous parle depuis quelques jours va se mettre véritablement en place à partir de demain. Et on saura quel département passe en vigilance orange dans le courant de l'après-midi.
Merci Marlène, on vous retrouve un peu avant le journal de 13h. Voilà pour le sommaire, Géraldine, place à l'actualité.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un policier de 43 ans a donc été tué cette nuit au Mans, dans la Sarthe, alors que lors d'un banal contrôle, le fonctionnaire a été renversé par un chauffard alcoolisé qui ensuite a tenté de prendre la fuite, Guillaume Billet.
Cela se passe vers 3h30 la nuit dernière sur une grande artère au sud-ouest du Mans. Les pompiers sont appelés parce qu'une voiture est arrêtée en pleine rue, moteur tournant. Au volant, le jeune conducteur est tellement ivre qu'il s'est endormi. Un équipage de 3 policiers arrive en renfort et l'un d'eux, un brigadier, se penche dans l'habitacle pour couper le contact de la voiture. C'est à ce moment-là que le conducteur se réveille brusquement et accélère. Il embarque avec lui le policier à moitié penché dans la voiture et au bout de quelques mètres, le brigadier est éjecté et percute violemment un muret, blessure mortelle à la tête. Les secours sur place n'ont pas réussi à le sauver. Ce policier de 43 ans était marié et père de 3 enfants. Le conducteur lui a essayé de s'enfuir à pied. Il a été vite rattrapé et arrêté. D'après nos informations, une première mesure a révélé qu'il avait plus d'1,10 g d'alcool dans le sang. Il est en garde à vue. C'est un homme de 26 ans, déjà condamné 2 fois selon le procureur du Mans. Conduite sous l'emprise de l'alcool, déjà en 2015, et outrage et rébellion il y a 2 ans. Cette fois, les conséquences dramatiques de son geste lui font encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Merci Guillaume Billet pour ces premières informations. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce matin pour rendre hommage aux fonctionnaires et souligner la dangerosité des brigades de police secours à laquelle il était affecté.
Les policiers nationaux, comme les gendarmes, font un travail extrêmement dangereux et difficile. Tout le monde le sait, mais ce drame est là pour nous le rappeler. C'est la 2e mort de policiers en mission depuis le début de cette année. Je voudrais vous dire que la police secours à laquelle appartenait ce brigadier intervient toutes les 10 secondes sur le territoire national. Et puisqu'il s'agit d'un drame qui est né d'un véhicule et d'un refus d'obtempérer, toutes les demi-heures en France, pour les policiers et les gendarmes, il y a un refus d'obtempérer. Et donc toutes les demi-heures, les policiers et les gendarmes dans notre pays on le risque de rencontrer la mort. Donc je voulais témoigner de mon respect, bien sûr, de mon témoignage aussi de remerciement pour ses collègues qui, avec un grand sang-froid, sont intervenus pour arrêter l'auteur. Et désormais, une enquête judiciaire, je ne la commenterai pas. Mais je voudrais évidemment dire un mot aux policiers nationaux de France pour leur le remercier de tout le travail qu'ils font pour la protection de la population.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin au Mans, des propos recueillis par Charles Guyard.
Midi 35, la suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Emmanuel Macron est donc à Beyrouth depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant. Le président français vient exprimer sa solidarité envers le pays, solidarité fraternelle, a-t-il dit, au lendemain de la catastrophe du port de Beyrouth qui a fait, selon un dernier bilan, je vous le rappelle, 137 morts et 5000 blessés. Johanna Chabas, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous avez suivi les premiers pas du président français sur le sol libanais.
Oui, Emmanuel Macron a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport par le président libanais Michel Aoun. Ils se sont entretenus quelques minutes. Le président français visite maintenant le port, le lieu de la double explosion. Il constate les nombreux dégâts et rencontre des secouristes de la Croix-Rouge sur place. Dès sa sortie de l'avion, Emmanuel Macron a tenu à rappeler qu'il souhaite organiser l'aide internationale pour le Liban.
Je viens d'abord, je dirais de manière quasi immédiate, pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais. Après l'explosion du 4 août qui a frappé l'ensemble de la population et tout Beyrouth, c'est, je dirais, avant toute chose, ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France.
Il rencontrera ensuite le Premier ministre libanais, le président de la Chambre des députés, avant de s'entretenir avec l'ensemble des forces politiques et des mouvements civils. Parce que, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le président veut aussi que l'aide soit utilisée correctement dans un pays en crise économique et avec énormément de corruption. Il espère faire passer un message. Il faut que le pays se réforme. Sinon, le Liban continuera de s'enfoncer.
Merci Johanna Chabas. C'est bien justement depuis hier, c'est aux abords des hôpitaux que l'on mesure le mieux, le plus, le désarroi des habitants et le chaos dans lequel est plongée la population depuis cette catastrophe. 4 hôpitaux de Beyrouth ont été détruits dans l'explosion. Les autres, déjà saturés par la crise sanitaire du Covid, sont aujourd'hui complètement dépassés par la situation. C'est ce que vous avez pu constater dès hier soir en arrivant dans la capitale. Johanna Chabas, on écoute votre reportage.
Je devais m'accrocher à cette personne pour enfin trouver un endroit pour m'aider. Je savais que si je ne tenais pas, j'allais mourir.
Après l'effondrement de son appartement, Jazz, 20 ans, est transportée en mobylette vers l'hôpital le plus proche. Le crâne ouvert, elle se bat pour rester consciente, mais c'est seulement le début de son calvaire.
On est allé dans différents hôpitaux. La plupart étaient pleins au maximum de leur capacité. Donc on a dû faire quasiment 4 hôpitaux avant que l'un accepte et me soigne. C'était une expérience terrifiante.
Elle finit par être transférée au même hôpital que son frère. Il est à l'étage au-dessus, en réanimation. Les blocs opératoires tournent à plein régime. Plus de 24 heures après l'explosion, 6 des 7 chirurgiens orthopédiques sont toujours en service. Aux urgences, il a fallu gérer un afflux massif de patients.
On n'a jamais vécu une nuit pareille. Cette seule nuit était pire que 30 années de guerre. On n'a jamais travaillé dans ces conditions-là. On intubait à même le sol, il y avait des cadavres partout, il y avait des blessés graves, des gens qui criaient, des gens qui cherchaient leur famille, qui n'arrivaient plus à trouver les gens. Donc c'était vraiment très lourd à supporter.
Si le rythme se calme légèrement, cette urgentiste craint tout de même pour la suite. Elle a notamment peur des possibles effondrements d'immeubles fragilisés depuis l'explosion. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe.
Et j'ajoute que l'on a appris hier qu'un Français était décédé dans la catastrophe. Il s'agit de Jean-Marc Bonfils, un architecte qui travaillait au Liban depuis plusieurs années. Déjà ravagé par une crise économique historique, on le sait, le Liban se relèvera-t-il de cette tragédie? Ce qui est sûr, c'est que parmi la population, on sent monter une grande colère des Libanais qui réclament des comptes et qui pointent la responsabilité directe du gouvernement et de son incurie. Ce matin, Charbel Webe, le nouveau ministre des Affaires étrangères libanais, était invité exceptionnel d'Europe 1 dans la matinale de Sébastien Krebs et il a promis que les responsables seraient poursuivis.
Il y a eu une décision de créer un comité d'investigation et ils n'ont que 4 jours, maximum 4 jours, de nous donner un rapport détaillé sur la responsabilité, comment, qui, quoi, où, et il y aura des décisions judiciaires sur cette base.
Vous promettez que cette enquête sera totalement indépendante et que les responsables, même s'ils sont en fonction au pouvoir aujourd'hui sur des postes élevés, seront désignés et jugés?
Oui. Parce que moi, j'ai attendu le Conseil des ministres, j'ai entendu pas seulement le président et le président du Conseil des ministres, tous les ministres, sans aucune exception, ont insisté qu'il va y avoir celui qui sera coupable ou responsable de cette pas seulement négligence, de ce crime de négligence, crime affreux de négligence, sera puni par un comité de juges.
Charbel Webe, ministre des Affaires étrangères libanais, ce matin sur Europe 1. L'autre question qui continue de tarauder tous les habitants de Beyrouth, c'est de savoir pourquoi ces 2700 tonnes de nitrate d'ammonium étaient ainsi stockées pratiquement sans surveillance. Le directeur général des douanes dit avoir alerté à 6 reprises les autorités sur ce stockage dangereux. Pierre Herbulot, vous avez enquêté, vous, sur ce qui est la première porte d'entrée commerciale du pays, un port qui échappe parfois à tout contrôle.
8 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. C'est le cœur de l'économie libanaise, mais aussi une plaque tournante du marché noir et de la contrebande. Quelques pots de vin et les taxes de douane disparaissent, raconte un chef d'entreprise. La gestion de ce port a été confiée à un groupe privé par l'État. Et c'est bien le problème pour Rabi El-Shaer, fondateur d'une association de lutte contre la corruption.
Cet État est infiltré par des féodaux et des mafias qui mettent leurs mains sur des secteurs particuliers. Donc le port et surtout Hezbollah.
Le Hezbollah, parti politique proche de l'Iran, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis.
C'est très stratégique pour faire passer ses armes et ses munitions pour alimenter ce qu'il appelle sa résistance.
En septembre, l'ex-premier ministre libanais Saad Hariri s'était justement rendu sur les docks pour promettre un meilleur contrôle du port. Autour de lui, dans un entrepôt, près de 3000 tonnes de matières explosives étaient déjà stockées.
Pierre Herbulot.
Il est midi 41.
Europe 1.
On marque une pause dans un instant cette autre question. A-t-on tiré les leçons en France de la catastrophe d'AZF, elle aussi provoquée par le nitrate d'ammonium? Et puis nous parlerons de la sécheresse et de la canicule qui s'installe un peu partout dans le pays. A tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Nous le disions dès hier, cette catastrophe du port de Beyrouth et cette explosion provoquée donc par le nitrate d'ammonium a réveillé de douloureux souvenirs à Toulouse. C'est ce même produit chimique qui avait provoqué l'explosion sur le site d'AZF en 2001. Bonjour Élise Jean.
Bonjour Lionel.
En France, est-ce qu'on a tiré donc les leçons de cet accident et comment les stocks de nitrate sont-ils gérés?
Oui, AZF a permis une réelle prise de conscience autant au niveau français qu'européen. Depuis le drame, 4 textes successifs ont fait évoluer la réglementation pour mieux encadrer le stockage du nitrate d'ammonium, car c'est là tout l'enjeu. Si ce produit chimique seul n'est pas dangereux, il peut se transformer en puissant explosif si, par exemple, il est contaminé par une substance incompatible ou fortement exposée à la chaleur.
Donc tout ça est forcément très encadré, Élise.
C'est ça. En France, on a une centaine de sites de stockage. Tous sont soumis à la réglementation des installations classées et au niveau européen à la directive Seveso. Ils doivent notamment respecter des seuils, 1250 à 5000 tonnes maximum selon le type de nitrate d'ammonium stocké. Tout un arsenal renforcé par des contrôles, comme l'explique Marie-Astrid Soenen de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement et des Risques Industriels.
Lorsqu'il y a par exemple un doute sur une caractéristique technique du produit, l'INERIS intervient, réalise des essais sur ce qui est par exemple amené en France par une importation, pour dire si le produit pour nous présente un risque ou pas, et si les conditions de stockage qui vont être mises en œuvre répondent bien aux caractéristiques techniques du produit.
Alors Élise, il y a une évolution des règles en France, donc, mais aussi des usages.
Absolument. Par exemple, chez nous, on stocke principalement le nitrate d'ammonium dans des big bags. Vous savez, ce sont ces conteneurs souples et hermétiques. Ils permettent de ne pas altérer le produit et donc de réduire le risque d'explosion. Mais surtout, ils évitent la propagation d'une éventuelle détonation.
Merci Élise Dangean. L'hommage à Gisèle Halimi ce matin au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est là que la célèbre avocate militante du droit des femmes est décédée la semaine dernière, a été inhumée, entourée de ses proches et de nombreux amis. Marlène Duret nous le disait il y a quelques minutes, les températures ne cessent de grimper à l'approche de cet épisode de canicule. Voilà qui ne va pas arranger la sécheresse qui sévit notamment dans 73 départements français qui ont déjà pris des arrêtés de restriction d'eau. Et c'est le monde agricole qui se désespère. Dans une année 2020 déjà catastrophique pour certains rendements, reportage en Haute-Garonne de notre correspondant Benjamin Peter.
L'argile travaille et le manque de faute s'écarte le sol. Tu vois là, la girafe pour la main.
La terre est craquelée et Jean-François Lamassé, dépité, ne peut que constater l'étendue des dégâts. Sur ses 140 hectares de blé, d'orge et surtout de tournesol, il n'est tombé que 3 mm il y a 15 jours et depuis, plus rien. Il s'attend à un gros manque à gagner.
Oui, d'avoir des tournesols en moyenne entre 22, 23 quintaux, 25 quintaux. Aujourd'hui, on va se retrouver des tournesols avec 10, 12 quintaux. À moitié moins dans des bonnes terres. Moi, je regarde comme tous les agriculteurs, météo-ciel, météo-rama. Quand on voit, comme ce matin, c'est un peu couvert, on a espoir qu'il y a un orage, mais l'orage ne vient pas, quoi. Et on est parti pour une grosse sécheresse. Il aurait fallu qu'il pleuve au moins il y a 3 semaines déjà. C'est comme celui qui est à la banque et qui a un compte déficitaire. Tous les jours, il prend des agios. Nous, c'est pareil. Tous les jours, on perd du rendement, on perd du rendement, on perd du rendement. Et à la fin, il n'y a plus rien. Il est juste pour pleurer. Le pire dans l'histoire, c'est que l'hiver, on a de l'eau, on la gaspille, on ne sait pas plus quoi en faire et on ne peut pas faire de lac.
Lui, pourtant, aurait plusieurs versants où il pourrait créer des retenues d'eau, mais avec le précédent de Sivens, plus personne ne se risque à autoriser la création de lac artificiel. Alors il attend la pluie, peut-être après le 15 août, au mieux quand la vague de chaleur sera passée. À Sabonnère, en Haute-Garonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Par ces temps de forte chaleur, l'obligation du port du masque en ville sera forcément beaucoup moins bien supportée. Une obligation qui crée par endroits des situations un peu ubuesques, comme dans la banlieue de Lille. Je vous présente l'avenue de Dunkerque. D'un côté, la ville de Lhomme, masque obligatoire. Et le trottoir d'en face, ville de Lambersart, là, pas d'obligation. Et des riverains qui ont bien du mal à s'y retrouver. Reportage, Maximilien Carlier.
Là, ici, on le met, là-bas, on ne le met pas. Pour quelle raison? Parce qu'il y a plus de soleil là-bas qu'ici. Non, mais enfin, il faut faire tout le monde pareil. Hein, c'est vrai, hein.
On sent que Mireille est un peu désabusée quand elle traverse l'avenue de Dunkerque. D'un côté, des panneaux masques obligatoires, de l'autre, rien, rien n'est requis. Alors, Denis, qui habite Lambersart, en profite quand il va acheter des cigarettes à l'homme.
J'ai mis le masque pour aller au tabac, forcément. J'ai retraversé, bon, je l'enlève. C'est l'avantage qu'on a.
Avantage pour certains, surtout quand il fait chaud, quand le masque colle à la peau, mais pour les commerçants, c'est ubuesque.
Je vais avoir des clients qui vont se garer sur l'homme, vont devoir mettre un masque, ils vont traverser, ils vont pouvoir l'enlever, il faut qu'ils le remettent dans mon magasin. Ça aurait été bien que les deux mairies se mettent d'accord, en fait.
Olivier Caromel, premier adjoint de la ville de Lhomme, justifie la décision d'imposer le port du masque.
Vous connaissez la ville de Dunkerque, très passante, même au mois d'août. Nous avons le marché samedi. Vous n'ignorez pas que le marché de Lhomme attire de nombreux riverains mais qui viennent de Lhomme, mais aussi de Lambersart. Hein. Voilà, il nous semblait que c'était assez légitime pour obliger au port du masque.
Et pour la mairie de Lambersart, les trottoirs sont plus larges, donc favorisent la distanciation. La municipalité préfère concentrer ses efforts sur les jardins, parcs ou au bord de la Deule, là où le masque est obligatoire. Lambersart Lhomme, Maximilien Carlier, Europe 1.
Aujourd'hui, c'est à Blois qu'entre en vigueur l'obligation de porter le masque en ville et dans les extérieurs. Et puis je vous rappelle, circulation différenciée pour cause de pics de pollution à l'ozone aujourd'hui en région parisienne. Seuls les véhicules avec les vignettes critères 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler. Voilà une étude qui va bien à l'encontre des idées reçues. Vous pensiez que les Français étaient les champions du tir au flanc? Eh bien, vous avez tout faux. Cette étude, publiée par la direction statistique du ministère du Travail, révèle en fait que, même malades, les Français travaillent. En moyenne, un jour de congé maladie sur 4 se passe dans l'entreprise. Olivier Samain.
Ça n'a pas valeur de sondage, évidemment, mais tous les salariés que nous avons interrogés hier le reconnaissent. Venir travailler alors qu'ils ne se sentent pas bien, ça leur arrive souvent. Corentin, par exemple.
C'est pas un rhume ou un petit mal de gorge qui va nous arrêter. Tant qu'on n'est pas à l'article de la mort ou vraiment contagieux, je pense qu'il faut continuer à travailler.
Ce que nous apprend l'étude du ministère du Travail, c'est que le présentéisme est un phénomène très français. Les salariés des autres pays européens qui sont malades s'arrêtent généralement plus vite. Oui, mais il peut y avoir de bonnes raisons, rétorque Gwenaël.
Parfois, il y a des choses sur lesquelles personne autour de moi, enfin dans l'équipe, ne peut le faire à ma place. Et puis, vis-à-vis de l'équipe, ça peut être de la culpabilité à ne pas venir ou ça peut être une charge de travail qui va s'accumuler et ça sera pire à mon retour.
Les adeptes du présentéisme sont plus souvent les femmes que les hommes, plus souvent les cadres aussi, plus souvent les seniors, plus souvent enfin les salariés confrontés à une pression temporelle ou à des relations difficiles avec leurs supérieurs. Et pourtant, venir travailler quand on est malade n'est pas forcément un bon calcul. D'abord parce qu'on risque de contaminer ses collègues, mais aussi parce qu'en ne se soignant pas tout de suite, on risque d'être malade plus longtemps, ce qui coûtera plus cher à l'entreprise et à la collectivité.
Olivier Sam.
Il est 12h50.
Europe 1.
On marque une pause, on revient dans un court instant. On parlera des démêlés de Donald Trump avec Twitter et Facebook. Et puis une toile de maître française volée par les nazis pendant l'occupation qui rentre en France. Et puis toujours la poisse pour le Paris Saint-Germain, décidément. Un blessé de plus dans l'effectif à moins d'une semaine de la Ligue des Champions.
Europe 1.
Le journal La Suite sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Décidément, rien ne va plus entre Donald Trump et les réseaux sociaux américains. Après la suspension de son compte Twitter il y a quelques jours, c'est Facebook qui fait retirer une vidéo du président américain pour cause de, je cite, « désinformation dangereuse autour de la maladie du Covid-19 ». Clément Le Saffre.
Oui, cette fois, c'est une vidéo publiée sur le compte de campagne officiel de Donald Trump qui est visée. On y voit un extrait d'une interview téléphonique donnée par le président américain à la chaîne Fox News.
Les enfants sont quasiment, et je dirais même presque totalement, immunisés contre le Covid. Leur système immunitaire est beaucoup plus fort que le nôtre. Ils n'ont pas de problème avec cette maladie.
Problème, c'est faux. Certes, les enfants représentent une très faible proportion des hospitalisations pour le Covid-19, mais ils ne sont pas immunisés. Pour autant, des études ont montré qu'ils peuvent attraper et transmettre la maladie. Une fake news donc, et Twitter et Facebook ont pris des mesures. Twitter a interdit au compte de campagne de Donald Trump de tweeter tant que la vidéo ne serait pas retirée, ce qui a été fait. Ce n'est pas la première fois que le réseau social modère les propos du président américain, mais le plus marquant, c'est la décision prise par Facebook de supprimer sans sommation cette vidéo. C'est la première fois que Facebook censure Donald Trump. Son fondateur Mark Zuckerberg a longtemps prôné la liberté d'expression, mais il était sous pression lui-même. Mi-juillet, plusieurs marques avaient mené un boycott publicitaire pour l'inciter à durcir le ton. C'est désormais chose faite et ça risque de ne pas plaire du tout à Donald Trump.
Merci Clément Le Saffre, spécialiste entre autres des réseaux sociaux sur Europe 1. Dans le scandale du Dieselgate, trois anciens membres du directoire d'Audi devraient comparaître dans un procès pénal prochainement en Allemagne. Ils seront poursuivis pour fraude dans le cadre de cette affaire des moteurs diesel truqués. Deux anciens dirigeants de Volkswagen doivent comparaître le 30 septembre dans cette même affaire. 75 ans après avoir été volé par les nazis lors de l'occupation, un tableau du peintre Rousseau rentre en France. Il a été officiellement restitué hier après-midi à l'ambassade de France à Berlin lors d'une cérémonie chargée d'émotions. C'est une toile de l'école de Barbizon que l'on devrait donc bientôt voir en France. Reportage, Hélène Cole.
Pendant 75 ans, le tableau était au mur d'un appartement berlinois. Une toile rapportée par un soldat allemand stationné en France en 1944. Sur ordre de sa hiérarchie, il devait la remettre en personne à quelqu'un à Berlin. Mais à cause des bombardements, il n'a jamais trouvé l'adresse. Julien Acquatella travaille pour la commission d'indemnisation des victimes de spoliation.
L'histoire a débuté avec un message de M. Peter Forner qui nous a dit je dispose chez moi d'un tableau pris en France sous l'occupation, un tableau qui ne m'appartient pas et que je souhaite rendre à la France.
Mais à l'issue d'une année de recherche, toujours aucune trace des propriétaires légitimes. On trouve alors une solution inédite. Hier, c'est le directeur du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme qui est venu chercher le tableau. Philippe Hanche va l'exposer dès aujourd'hui à Verdun.
Ce tableau va être exposé au public dans le hall d'accueil au Centre mondial. Il sera accompagné des explications et surtout d'un appel au public qui, s'il reconnaît le paysage, qui, s'il reconnaît un point particulier sur ce tableau, puisse nous contacter tout de suite et faire avancer effectivement la connaissance de l'histoire de ce tableau.
En attendant, il doit servir de témoin pour raconter l'histoire de la spoliation des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Europe 1 midi 54, la suite du journal Inel Gougelot.
Le sport, le football, décidément, rien n'est jamais simple au Paris Saint-Germain. À moins d'une semaine de son rendez-vous en quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain plonge à nouveau dans le doute avec un nouveau blessé dans l'effectif et pas des moindres, Julien Froment. Le milieu de terrain Marco Verratti, on n'est pas loin de la malédiction, dites-moi, pour le club parisien.
Oui, chaque saison, en fait, c'est la même ritournelle. Dès qu'un match important arrive, un joueur clé est absent pour cause soit de blessure, soit de suspension. Alors, les années précédentes, c'était Neymar qui regardait ses copains depuis la tribune. Cette fois-ci, c'est la doublette Kylian Mbappé-Marco Verratti, l'Italien qui s'est fait blesser à l'entraînement par un de ses coéquipiers, à savoir avec Maxime Choupo-Moting. Bref, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Une situation qui désespère l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.
Pas bien, hein. C'est une grande incertitude et c'est un grand problème, c'est clair. C'est toujours la même chose. Quand on arrive dans un match au Ligue des Champions, ce sont des nouvelles négatives toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Alors un peu désespéré, hein, Thomas Tuchel, mais il y en a un qui ne veut pas entendre parler de malédiction et qui, positive coûte que coûte, c'est la positive attitude, hein, c'est le directeur sportif Leonardo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pour lui, la malédiction, c'est un mot tabou, il ne faut surtout pas le dire devant lui, parce que tout simplement, eh bien, Paris a remporté les 4 titres nationaux et est qualifié encore pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dans un contexte sanitaire spécial, hein, après 5 mois d'arrêt, des joueurs majeurs blessés, on l'a dit. Et puis aussi, il en a profité pour glisser un tacle à Saint-Etienne et aux arbitres, hein, qui ne protègent pas assez les joueurs. Bref, des ondes positives dont Paris a bien besoin à une semaine de son quart de finale de la Ligue des Champions.
Merci Julien Froment. Et il y en a qui positive également, malgré la crise. malgré la période sinistrée pour cause de coronavirus dans le monde du spectacle. C'est le festival de Ramatuelle qui a bien lieu cette année. Il se tient jusqu'au 11 août, jusqu'à mardi prochain. Alors évidemment, il n'a pas l'ampleur des années précédentes, limitation d'accueil forcément du public, quelques annulations de spectacles aussi forcément, mais pour Jacqueline Franjoux, sa présidente, eh bien c'est quand même un immense soulagement.
C'est non seulement un immense soulagement, mais c'est surtout une émotion terrible, parce que tous, pour la première fois, artistes et techniciens, n'avaient pas joué depuis le mois de mars. Donc c'est extrêmement émouvant, et c'est vrai que c'est tout à fait spécial de regarder une salle avec un public qui vraiment voulait revoir et revoir tout ce qui se passait sur scène.
Quelles mesures vous avez prises ?
Limiter de 1200 places, d'abord jusqu'à 700, première mesure. D'accord. En accord avec les services préfectoraux, ensuite température, ensuite distanciation en rentrant dans le théâtre, port du masque à l'entrée et à la sortie, port du masque pendant tout le spectacle, interdit de lancer les coussins sur scène cette année.
Ah oui, pas de respect de la tradition.
Voilà, et toutes mes équipes ont été testées.
Vous avez dû monter ce festival un petit peu en urgence.
Des parties de la programmation se sont annulées, comme les variétés, comme Souchon, ou Catherine Ringer ou Gad Elmaleh, parce que les tournées ont été annulées. Donc des artistes nous ont téléphoné, comme Pierre Palmade, en disant « je veux venir jouer, je veux soutenir le théâtre ». Et ainsi que d'ailleurs le spectacle, et pendant ce temps-là, Simone Veil, ou Opéra Locaux, et Michel Bougenard est connu à cette adresse avec Charles Berling. Donc il y a eu, de la part des artistes, un souhait vraiment de venir jouer à Ramatuelle, et je les en remercie. Et encore une fois, c'est indispensable, et même si ce petit écosystème qu'est Ramatuelle, Non pas servir d'exemple, mais montrer qu'on veut vraiment donner espoir et se battre pour que tout cela réussisse, évidemment.
Jacqueline Franjoux, présidente du festival de Ramatuelle, ce matin sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Il nous reste à voir la météo, bien sûr.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Marlène Duré, pas de surprise. Soleil et forte chaleur au menu aujourd'hui.
Oui, hein. Au niveau du ciel, c'est vraiment super simple. Vous profiterez d'un bel après-midi ensoleillé. Même les nuages qui étaient présents ce matin en Bretagne s'effacent. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, ce sont les températures. On va dépasser généralement les 35 degrés sur le quart sud-ouest. Température sous abri, faut-il le rappeler. On prévoit donc jusqu'à 37-38 degrés à Mont-de-Marsan, Angoulême, Agen, Cognac, Bordeaux, Toulouse, 36 au Mans et à Limoges, 35 degrés en Touraine, dans le Berry, 35 également du côté de Nantes et de Nice. 34 à Paris, 33 à Reims, Lille et Lyon, 32 en Lorraine, 30 degrés en Corse pour cet après-midi. Il fera 29 à Nice, Mulhouse, 26 à Brest. Ça vous donne une idée. La nuit dernière était encore fraîche, mais ça va changer. La canicule s'installe, on en a pour quelques jours. Ça veut dire que demain, vendredi, les températures minimales et maximales vont continuer à remonter. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec... sur une très grande partie du pays, 18 à 22 degrés la nuit, 22 la nuit, 35 à 40 en journée. Donc aéré à l'aube, mais après, hop, on ferme les fenêtres et les volets. J'ai noté 41 d'ailleurs dans le Gers pour demain. On ne sera pas loin du record de chaleur de 2003. Samedi, baisse des températures par l'ouest, mais les régions de l'est resteront concernées par l'épisode caniculaire qui sera mis en place. Épisode qui devrait prendre fin en milieu de semaine prochaine avec cette dégradation orageuse qu'on nous annonce. On affinera les prévisions évidemment au fil des jours quant à la chronologie et l'intensité. Alors cette canicule, elle est remarquable par sa durée, mais pas aussi durable qu'en 2003, je le précise. Laurent Cabrol nous le rappelait aussi ce matin. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on attendra certainement les 38 degrés samedi à Lille. Ça fera deux fois cette année du jamais vu.
Merci Marlène Duré. Bonne journée.
Merci Lionel.
À ce soir, 18h.